Salut les amis,
salut Charline.
Bon, je vais vous demander d'être au top.
Comme d'habitude.
Non, plus que d'habitude.
Oh là là,
on reçoit Philippe Jarouski.
Oh, ah, sois tranquille, le foot, c'est mon truc.
Ah bah voilà, ouais. C'est déjà mal parti. Bah c'est un chanteur lyrique.
C'est moi ton truc, ça, je crois, Alex.
C'est le truc de personne. Je vais demander à Vincent Josse de venir.
Ah, Vincent, oui, il a présenté la matinale de France Musique.
Pourquoi on n'invite pas Michel Thor?
Ah non, bah si. Bon, on pourrait faire des sujets musique.
Manuel Valls qui joue du pipeau. Placé qui pisse dans un violon.
Salut les copains. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Là, on a un gros souci. En fait, on s'est un peu aventuré, on a invité Philippe Jarouski.
Ah, voilà. Oh, mais c'est formidable. Contre-ténor magnifique et en voix de poitrine baryton.
Voilà, c'est ça le problème, tu vois.
Parce que vous n'aimez pas les contre-ténors?
Non, on pige rien à ce que tu dis, là, on comprend pas.
Quoi?
Oui, on est nul en musique classique.
C'est suicidaire de faire ça.
À ce point-là,
c'est très compliqué, une interview sur le classique.
Donne-nous des trucs.
Il y a peut-être un truc.
Vas-y.
S'intéresser à la musique classique pendant une dizaine d'années.
On a jusqu'à 17h, Vincent.
Bon, il vient pourquoi?
Monteverdi. Ouais.
Oh, ouais. Bello, vous connaissez Monteverdi?
Verdi un peu, mais je savais même pas qu'il avait fait un duo. Ouais. Moi,
Pardon?
Monte et Verdi. Bah, Monteverdi comme David et Jonathan.
C'est très grave. Enfin, vous êtes pire que mauvais. J'ai une émission à préparer, moi. Vous savez quoi?
Non.
Vous auriez dû inviter Michel Thor.
Qu'est-ce que j'avais dit?
Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui stresse les marchés de l'actualité. Et voici les trois informations qui n'ont pas de quoi rassurer les investisseurs. Les résultats précis de cette dernière élection ont confirmé le clivage politique entre la ville et la campagne, d'où l'intérêt de la candidature de Jean Lassalle, le porte-parole de la campagne que Paris, écoutez, n'a pas su comprendre.
Du barré congénital, du dégénéré de la campagne, j'en ai vu un paquet, hein. Lui, on comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait.
Les modérateurs du web nous protègent de l'horreur de certains contenus et de la haine des commentaires, mais qui s'inquiète de l'état psychique de ceux qui sont surnommés les éboueurs du web et surtout, qui sont-ils ?
Ils sont le dernier rempart entre vous et la fin du monde.
Des études osent remettre en cause la suprématie du Stradivarius, surpassé par la sonorité du violon moderne, et cette étude a l'air béton, enfin, si l'on en croit le chercheur qui l'a mené.
Votre violon, il joue de la flûte?
De la flûte?
Bon, ça ira très bien.
Voilà. Pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui est un peu le Steinway de la brève, c'est Alex Vizorek.
Oh, je vous remercie, vous savez me parler, Charline Wenenacker. Et aujourd'hui, autour de la table, que du rebelle, et chacun dans son genre. À 17h20, le rebelle de la musique. Très jeune, il est entré en rébellion contre la belle chanson française de qualité, comme Alain Delorme, Muriel Dac et Philippe Cataldo. L'anti-Pascal Sevran, c'est lui. C'est Chewbacca, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Ben oui, vous ne les passez jamais. Qu'est-ce qu'on va écouter alors?
On va parler du thérémine, un instrument de musique que vous connaissez pas.
Comment vous savez?
Bon, c'est normal alors, d'accord.
À 17h30, le rebelle de gauche, armé de son micro et de sa faucille, c'est Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et ben moi je suis allé ce matin dans la ville de Manuel Valls, à Évry, pour tenter de mettre la main sur quelque chose qu'il a complètement paumé, sa dignité.
Bah non, on n'a plus de nouvelles.
Nous non plus.
Et 17h40, le rebelle de droite, bref, le renegade version Trump, celui qui a des solutions sans même connaître les problèmes. C'est vous, Pablo Mira, bonjour.
Allez, salut Alex, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à celui à qui il n'a fallu qu'un an pour devenir un géant. Alors non, Alex, je ne parle pas du résultat de votre agrandisseur de pénis commandé sur Amazon, mais bien d'Emmanuel Macron. Allez, à tout à l'heure.
Et voici celui qui a tout annulé pour nous. Vous démarrez votre carrière de soliste en 99 et vous réalisez déjà vos premiers enregistrements discographiques. 5 ans plus tard, vous devenez la révélation artistique lyrique aux Victoires de la musique classique et le meilleur artiste lyrique en 2007. En 2012, vous sortez une première compilation, le coffret La Voix des Rêves. Vous êtes contre-ténor, baryton en voix de poitrine, nous a dit Vincent Josse. Enfin, on va savoir un petit peu plus parce que vous êtes...
Jarouski, ben le problème c'est qu'il a dit des bêtises, Vincent.
Oh génial, Philippe Jarouski nous dit tout sur Vincent Josse.
Sur France Inter, Charline Wenenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Ça commence bien, il nous a briefé toute la matinée.
C'est moi qui écris le texte, en me référant à la page Wikipédia, qui dit Philippe Jarouski est un contre-ténor français.
Pas que ça, dans le livret aussi, vous dites contre-ténor.
Et après, il y a une partie d'article où vous dites que vous-même, vous dites qu'en voix de poitrine, vous êtes baryton.
Ah oui, mais sinon, en voix de contre-ténor, je suis voix de tête. En fait, j'utilise ma voix de poitrine, c'est ma voix quand je parle.
C'est ça. Et là, quand vous me parlez, c'est du baryton.
C'est du baryton.
C'est bien ce qui me semblait.
Voilà. Mais je ne chante pas au contre-ténor, c'est la voix de tête.
Ah,
vous,
d'accord.
Mais vous êtes bien la bonne personne ou pas ? Parce qu'il y a peut-être une erreur. Enfin, je ne sais pas. Mais
vous allez voir qu'on est des truffes, mais vous allez nous éclairer. Philippe Jarouski, on est ravis de vous accueillir.
J'espère que je vais y arriver.
Mais bien sûr, nous, on est très, très curieux. Et on a écouté votre album. On était tout apaisés. Moi, j'étais énervée ce matin. J'étais à fond. Et puis là, il y a vraiment quelque chose qui nous parle. La Storia di Orfeo. Vous avez, si j'ai bien compris, associé trois opéras finalement pour...
Oui, j'ai fait une sorte de compile en fait. Voilà parce que dans les opéras, il y a souvent beaucoup de personnages. Et là, j'ai voulu resserrer sur Orphée et Eurydice, une histoire que quand même tout le monde connaît à peu près. Le fameux moment où Orphée ne doit pas se retourner quand il ramène Eurydice des enfers et puis bah, il se retourne.
Une avec histoire vraie, hein, on le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas.
Avec Monteverdi, Sartorio et Rossi. Le Seicento, c'est votre passion, c'est ça, c'est vos premiers amours. Le premier baroque italien, voilà. Pour celui qui est novice, ça paraît quelque chose de pointu, que justement vous rendez accessible avec cet album. Bah,
ce qui est incroyable avec Monteverdi, c'est que c'est un des premiers grands compositeurs classiques. Il a créé, on pourrait dire, l'opéra avec justement l'opéra Orphée en 1607. Donc on est vraiment au tout début de l'opéra, il y a plus de 400 ans, et c'est un très grand moderne en fait. C'est quelqu'un qui avait un esprit extrêmement moderne, il a tout inventé, et sa musique sonne parfois, des fois avec des couleurs encore très, très surprenantes pour nous.
C'est-à-dire qu'il y a un héritage de Monteverdi qui transpire à travers plein de choses les siècles qui ont suivi.
Oui, on sait que les grands compositeurs connaissaient Monteverdi, et c'est vrai que ce qu'il faut s'imaginer aussi, c'est qu'on est à Venise, hein, et qu'à Venise, il y avait aussi beaucoup de bateaux qui arrivaient avec la musique aussi, pas forcément d'Occident, mais d'Orient. Donc il y a aussi un mélange comme ça incroyable d'instruments et de couleurs qui peuvent parfois même sonner oriental.
Donc ils repartent avec les disques.
Voilà,
exactement. Bien sûr.
Et vous chantez...
De Michel Thor, évidemment.
Votre Eurydice. Votre Eurydice, c'est Emeke Barat.
Oui, une magnifique soprano hongroise, mm-hmm. Qui est encore très jeune et qui a une très belle carrière devant elle.
Alors, vous êtes aussi à la tête de l'Académie musicale Philippe Jarouski, qui va ouvrir en septembre, si je ne me trompe.
Oui, ça c'est mon nouveau petit bébé.
Oui, c'est un projet pour accueillir sur le long terme, j'ai lu, des enfants, des jeunes adultes, et leur offrir un accès à la musique à ces enfants et ces adultes qui n'auraient pas eu forcément accès. C'est ça l'idée?
Oui, exactement. Ça sera sur la scène musicale, le nouveau bâtiment qui est à Boulogne, sur le site de l'ancienne usine Renault de l'île Seguin. Oui. Et voilà, j'ai été appelé pour mener ce projet que je veux effectivement avant tout social, parce que bien entendu, voilà, il y a beaucoup d'enfants qui, je pense, sont super doués en musique, mais ne le savent pas et n'ont pas forcément la possibilité d'accéder. Il faut savoir aussi que la musique classique, ça coûte cher. Mmh. Hein, on va parler, je crois, tout à l'heure des instruments, mais effectivement, il faut acheter des instruments, des partitions, forcément, ça crée une barrière. Et voilà,
le rock'n'roll aussi. Enfin, si vous voulez monter un groupe de rock, il faut quand même s'acheter une
guitare. Ah oui, ça coûte cher. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, plus on monte dans les études, et plus ça coûte cher aussi, parce qu'il faut avoir des instruments de plus en plus.
Un instrument classique, c'est encore autre chose. Hein. Voilà. Et un piano, je vous raconte.
L'avantage de la voix, c'est qu'on ne peut pas changer. Ça coûte pas cher.
Effectivement. Et d'ailleurs, vous serez en concert à la scène musicale sur l'île Séguin de Boulogne le 23 mai à 20h30, Philippe Jarouski and Friends, avec Élise Thibault notamment, Yoko Nakamura, Jérôme Ducrot, pianiste, voilà, oui, tous
beaucoup,
vos amis.
Beaucoup d'amis, et puis on va essayer de se faire plaisir et de faire rire aussi un petit peu.
Ah bah dites donc.
Il est comme ça, vous allez vous en rendre compte au long de cette émission, Philippe Jarouski. Et d'ailleurs, on va écouter un extrait de cet album, La Storia di Orfeo, Philippe Jarouski et Emeke Barat. On va écouter un extrait de Monteverdi, Viricorda, Oboschi, Ombrosi et Vieni Imeneo. Oui. C'est quel moment à peu près comme ça?
Bah, c'est le moment, en fait, ils vont se marier, en fait, Orphée et Eurydice, juste avant qu'elle ne meure, piquée par un serpent. Et donc voilà, là c'est la noce, en fait, c'est le mariage.
Pas d'aspi venin, quoi, il n'y a pas de...
Ouais, non, il n'y a pas d'aspi venin.
Allez, Philippe Jarouski, Monteverdi et Emeke Barat. Fatti pietosi, vi ricordo boschi ombrosi, vi ricordo boschi ombrosi. Jarouski et Emeke Barat, Storia di Orfeo, un extrait de l'Orfeo de Monteverdi. Vous êtes sur France Inter, une plongée dans le Seicento, le premier baroque italien, sur cet album qui vient de sortir, la Storia di Orfeo, qui est disponible depuis le mois de mars. Philippe Jarouski, pour vous entourer sur France Inter.
Attention, la chorale de France Inter, on a Djoubaka, on a Guillaume Meurice et on a Pablo Mira.
J'arrive pas.
Philippe Jarouski qui nous proposait de faire du Macron en voix de tête.
Ouais, vous voulez un petit coup.
Attention à la technique, reculez-vous.
C'est notre projet.
Magnifique.
Bravo. Alors, un soutien.
C'est mieux que l'original.
Allez, le monde tourne mal, l'information.
Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train.
Vous mentez. Le journal de presque 17h17.
Ça vous reprend.
C'est un mensonge.
Et on commence par les titres.
Marion Maréchal Le Pen se retire de la politique pour se consacrer à sa famille.
Oui, je suis très heureux, je vais enfin pouvoir la présenter à ma mère.
Après qu'on l'aura tondue.
Christiane
Taubira, Anne Hidalgo et Martine Aubry lancent ensemble le mouvement dès demain.
Et là, on tient les Charlie's Angels du socialisme.
Bon, est-ce qu'il y aura des brèves?
Oui, elles sont pas parties sur Europe 1, mais brèves.
Oui. Oh là là.
Charline, ça va pas?
Oh, bof.
Allez, on fait journal, quoi, on se motive.
Ouais, mais là, Alex, c'est plus pareil, quoi.
C'est triste pour Manuel Valls ou...
Non, ça, je m'en fiche, hein, c'est bien fait pour lui, Valls, il l'a cherché.
Mais quoi, alors?
Bah, c'est personnel.
Ah bon?
On m'a quitté.
Non.
Si, ah, il a appris tout à l'heure.
C'est pas vrai.
Patrick Cohen s'en va.
Ah oui,
ben... Europe 1.
Vous voulez qu'on essaye de le retenir?
Ouais.
Pour qu'ils partent pas là-bas.
Ah oui, bien, bien.
Allez, chauffez Patrick Cohen. Mettez-y du cœur.
Il y a des audiences à remonter. Il y a pas de Léa Salamé. Ici, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je veux plus être fonctionnaire. Là-bas, y aura pas autant de gauchos. Je pourrais venir en Porsche au boulot. J'en peux plus de tous ces bolos. Là-bas, je serai pote avec Nikos. C'est pour ça que j'irai là-bas.
Pleurez pas, Charlie.
N'y va pas. Plus personne n'écoute leur programme. C'est Roumanoff qui fait les vannes. Et tu vas saigner des oreilles. Quand Julie sonnera l'heure, on va tout le matin à faire
d'auditeurs à séduire. Même RTL, on peut se les faire. Mais toi, tu rêves de partir.
Ici, regarde mon salaire. Et l'on n'y peut rien changer. Là-bas, j'appelle la gardère. Et il fait fumer son chéquier.
Là-bas, toutes les 10 minutes, il y a de la pub. Tu vas regretter la matmute. Et qui va te soutenir dans la nuit. Ouh, t'es trop vieux pour mon rendez-vous.
Désolé, mais j'ai fait mon choix.
N'y va pas.
J'en pouvais plus de Bernard Guetta.
Là-bas,
regarde comme le bleu, il me va.
N'y va pas.
Mon bronzage ressort mieux là-bas.
Là-bas,
il paraît que Jade, elle est sympa.
N'y va pas.
Quand on lui parle, elle comprend parfois.
Là-bas,
là-bas, quand Louis m'imitera.
N'y va pas.
Paris Match fera sa couve sur moi.
Là-bas,
je me sens neuf et je me sens sauvage.
N'y va pas.
Je vais pécho Sublet, sera un carnage.
Là-bas,
là-bas, je serai le roi.
N'y va pas.
Ici mon bureau est étroit.
Là-bas,
c'est pour ça que j'irai là-bas.
N'y va pas. Pas tout de part. Il va pas.
Oh là là là. Philippe Jarouski, pardon d'avoir chanté devant vous.
Et ça tombe pile le jour où vous êtes invité, c'est fou quand même.
Mais Charlie, vous avez une amplitude vocale.
Oh, merci.
Impressionnante.
Oh, bon. Ne dites rien sur moi. Non. On va passer au sujet 1.
Voilà, il est 17h26 sur France Inter.
Le clip arrive.
Ah oui,
oui.
On le mettra sur la page Facebook.
C'est déclippé. Et
voilà. Philippe Jarouski, lui, il chante Orfeo.
Et correctement.
Correctement sur un magnifique album avec Emeke Barat. Et on va aborder avec vous ce premier sujet. La France des villes n'a pas voté pareil que la France des campagnes. Un clivage à propos duquel la France a été alertée, non pas par les sondages, non pas par Elisabeth Tessier, mais par un géographe, auteur de La France périphérique. Et voici son constat, toujours en musique.
Sortie de la capitale, je fais ma petite enquête. Donc en zone rurale, on roule les brouettes. Où on est à la mode, celle de 1920. Mon cœur est plus qu'il morde, est-ce qu'ils ont leur vaccin? Tout ce bel accent, comment tu fais? Bien sûr que c'est chantant, mais c'est pas du français. Où tu lis, je m'en vois te botter le cul. C'est comme ça au pays, on aime se botter le cul.
Frédéric Fromet, qu'on retrouvera bien sûr vendredi pour une chanson inédite. Philippe Jarouski, quel est le clivage politique qui vous tiraillerait le plus? Alors, j'essaie de faire une petite liste. Comme clivage politique en ce moment en France, il y a l'Europe, il y a la mondialisation, il y a l'accueil des réfugiés. Maintenant, il y a les abstentionnistes ou non, qui a un nouveau clivage.
Ouais. Il y a aussi.
Oui, bien sûr. Mais dans le vote proprement dit, ce qui touche le plus, c'est ville ou campagne aussi pour le vote. Est-ce qu'il y a un de ces clivages que vous ressentez, vous?
Oui, moi, c'est l'accueil des réfugiés. Mm-hmm. Je trouve ça incroyable que j'ai l'impression qu'on a. Il y a des gens qui traiteraient mieux leurs propres chiens que des gens qui sont dans la rue, quoi. Enfin, on a vu, là, ils ont été évacués, je crois, hier ou avant-hier, non? Près de. Mais je trouve ça assez incroyable qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il y a des êtres humains derrière, qui ont une histoire parfois même semblable à la nôtre. Et d'ailleurs, dans l'académie, on veut travailler aussi avec des enfants de réfugiés pour montrer que
oui.
Voilà, il y a pas de. Voilà, il y a des histoires, il y a des vrais drames derrière. Et j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, voilà, c'est contagieux, quoi. Il faut surtout pas les approcher, il faut surtout pas avoir de contact avec eux, quoi. Mmh. C'est terrible.
Et donc, à l'académie Philippe Jarouski, vous comptez accueillir des enfants?
Oui, parce que je suis sûr qu'il y a des enfants syriens ou des enfants d'autres pays qui ont commencé la musique dans leur pays, sont doués en musique.
Et privés de leur instrument, bien sûr.
Et voilà, moi j'ai envie aussi de travailler avec ces familles-là.
Peut-être faire un examen, on garde vraiment ceux qui sont bons musicalement.
Ou un papier vrai ou faux réfugié.
Quand on fait carrière comme vous, est-ce qu'on est un peu condamné à la ville ou on a l'occasion de se frotter frotter à la campagne et de voir la différence, de voir certains territoires délaissés où il y a la poste qui ferme, où il y a une école qui est en danger, etc.
Alors à la campagne, parfois, parce que par exemple en France, il y a un système de festival, par exemple l'été, où on va dans des endroits très reculés, des petits villages, des petites églises. Et c'est vrai que souvent on me dit, oh, de toute façon, vous chantez qu'à Paris. Alors, il y a toujours ce syndrome, vous chantez qu'à Paris, ce qui n'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à chanter dans les villes parce qu'il y a des grandes salles, il y a des opéras, des salles de concert. Mais c'est vrai qu'il y a ce j'entends, moi, même en tant que musicien classique, des fois cette phrase, surtout par rapport à Paris.
Il y a un clivage au sein même des musiciens classiques, ceux qui aiment aller vers ce public populaire et qui essayent de le convaincre, de le convertir, et ceux qui se disent, de toute façon, nous, autant que vous jouez pour les gens qui aiment ça.
Vous faites partie des premiers, vous, hein, Philippe
Jarre. Il y a un peu une petite guéguerre parfois entre musiciens classiques, parce que, effectivement, quand vous essayez de faire des choses qui sont un petit peu en dehors, vous êtes traité un peu de démago. Voilà, il y a tout un sérail classique aussi, qui a pas forcément envie que leur artiste fasse des choses un peu en dehors de ça. Alors, je pense que moi, je viens de la banlieue. De toute façon, je viens de Sartrouville. J'aurais pas eu un prof au collège qui aurait pas dit à mes parents de faire de la musique. J'en aurais jamais fait de ma vie. Donc, c'est pour ça aussi que je crée cette école. C'est peut-être parce que voilà, je viens pas d'un milieu effectivement peut-être bourgeois où on commence le piano, on fait des choses comme ça. Donc moi, ça m'interpelle que on peut être musicien évidemment dans toutes les classes sociales et voilà, la mixité c'est super important. Et c'est vrai que si vous regardez les orchestres classiques, les grands orchestres classiques, la mixité sociale elle existe pas vraiment non plus dans ce domaine-là. Donc il y a encore aussi beaucoup de boulot en musique classique sur ce point précis. Ouais.
Et je vous renvoie à cet article paru dans Society sur la France périphérique, hein, cet ouvrage de Christophe Guilly qui a été récupéré pendant toute cette campagne. L'article s'appelle Le livre qui a changé la campagne dans Society avec Philippe Jarouski jusqu'à 18h et à côté de lui notre programmateur musical Djoubaka.
Ouais, j'avais bien compris que là vous aviez un peu besoin de fantaisie, messieurs, dames, là, la tristoun. Hein. Parlons un peu baroque, non pas de la musique, vu qu'on a un professionnel à côté de moi, mais l'idée, le style, même du baroque, et je fais le choix aujourd'hui de l'excentricité et du singulier. Donc nous allons nous attaquer au theremin, parce que pour moi, c'est un des instruments les plus baroques qui existent. Ah. D'abord, c'est un instrument de musique audacieux, extrêmement dur à jouer, puisqu'on ne touche pas l'instrument en question. On fabrique des notes grâce à des mouvements dans l'air. Votre corps est immobile, à l'exception de vos bras qui déclenchent un son électromagnétique. Ce son, vous l'avez souvent entendu, sans savoir comment il était produit d'ailleurs. Et pour qu'on sache un peu de quoi je parle, voici le theremin en action pour le générique de la série Star Trek.
Vous connaissiez cet instrument, Philippe Jarouski ?
Oui, je l'ai déjà vu à la télévision, mais je l'ai jamais vu en vrai.
Ah, je vous en ramène un la prochaine fois.
Parce que quelle année à peu près ?
Je vous raconte ça.
Ouais.
Allez, on y va. Alors, le theremin, c'est un boîtier avec deux antennes. Avec une des antennes, en fait, vous produisez la note, et avec l'autre, vous modulez le volume. Ça ressemble un peu à un instrument à Gaston Lagaffe, mais en fait, son invention, elle ne date pas d'hier, et son histoire en elle-même, c'est un roman. 1919, on a un Russe, l'inventeur Leif Sergeevich Termen, plus connu sous le nom de Léon Theremin, qui est un fondu de musique et de physique, et qui invente, juste après la Révolution russe, le premier instrument de musique électronique. Il fait la présentation de votre camarade Lénine, qui en reste bouche bée, qui en commande 600 exemplaires qui vont être distribués partout en URSS. Et puis, le camarade Lénine prend des leçons. Et il envoie Léon Theremin faire une tournée mondiale pour propager la bonne parole, qui s'arrête aux USA. Et le génial inventeur se trouve fort aise là-bas et pose ses valises. À New York, il ouvre une école, un peu comme ce que vous allez faire. Et il invente un autre instrument qui déclenche du son avec des danseurs et récupère les danseurs de ballet pour travailler avec lui. Il est au top de sa gloire. C'est un Einstein de la lutherie baroque dans l'esprit et étrange dans la fabrication. Mais voilà, 10 ans après son arrivée aux USA, il disparaît. En fait, il est enlevé par les services secrets russes qui se disent que ce garçon doit avoir de la ressource. Alors, histoire qu'il ne prenne pas la grosse tête tout de suite, hein, on l'envoie un peu en prison avant de finir comme ouvrier dans une mine d'or de Colima. Et on raconte même à cette époque qu'il a été exécuté. Mais en fait, il se retrouve dans un laboratoire qui s'appelle une tcharachka, j'ai découvert ça aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de goulag pour scientifiques où les génies doivent créer des nouveaux gadgets électroniques. Et donc là, il invente le premier micro-espion à distance, le Buran, qui va servir aux Russes à espionner les ambassades présentes sur leur sol, etc. Et Térémine sort de la guerre, il est réhabilité, il sort de tôle, mais il fait plus de musique. Enfin, presque. Parce que à New York, lors de son séjour là-bas, il a formé quelques élèves, dont une qui va devenir une légende. Alors déjà, elle a le blaze qu'il faut, vu qu'elle s'appelle de son vrai nom Clara Rockmore. Rock comme le rock, la musique est mort comme plus, déjà c'est énorme. Et quand elle est belle en plus, comme une actrice hollywoodienne. Et Rockmore, en fait, c'est une violoniste classique, ukrainienne, qui a travaillé avec Térémine à perfectionner son invention. C'est-à-dire qu'elle a une oreille parfaite. Ce qui est frappant dans le son du Térémine, c'est l'impression que nous pouvons avoir, en tant qu'auditeur, de temps en temps, hein, de sa proximité avec la voix humaine. Elle en devient la grande prêtresse, la meilleure joueuse de Térémine au monde. Alors depuis, de nombreux groupes de rock, comme Led Zeppelin ou les Beach Boys, mais aussi des musiciens classiques comme Lydia Caniva, pas la violoncelliste, pour ça pour dire que l'utilise, et donc tout ça pour dire que l'étrange et l'audacieux traversent le temps et les époques, là on est dans la fantasy, sans se soucier de la mode. Baroque and roll. Donc on va écouter Clara Rockmore avec sa sœur au piano en accompagnement dans le Cygne, donc un extrait du Carnaval des animaux de Saint-Saëns.
Rockmore, le Carnaval des animaux, donc, de Camille Saint-Saëns.
Le Cygne.
Et donc, rappelez-nous, l'instrument ?
Le Térémine.
Le Térémine.
Que j'engage tout le monde à rencontrer. C'est, pour les voisins, c'est horrible. Et puis, visiblement, ça met un peu un coup de mou avec nous. Mais non, les gars,
Térémine. Et Philippe Jarouski disait, entre le violon et la voix, c'est vraiment là
et
que ça se
pose. Et le moustique aussi.
Et le moustique.
Alors, on a envie de faire un moment, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'effectivement, c'est quand même un son électronique, mais avec l'intervention de l'humain. Effectivement, maintenant, on ne crée plus que des sons. On ne crée plus vraiment d'instruments, mais on crée plutôt effectivement des nouveaux sons.
À la main dessus, effectivement.
Voilà.
Philippe Jarouski sera en concert à la scène musicale sur l'île Séguin de Boulogne, le mardi 23 mai à 20h30. Philippe Jarouski and Friends. Et puis l'album, bien sûr, La Storia di Orfeo. Philippe Jarouski et Emeke Barat. Il est avec nous jusqu'à 18h. Quelle chance! Quelle chance aussi!
De Térémine,
oui, c'est vrai.
Et il y a un instrument qui lui ressemble beaucoup, qui avait été créé, ça s'appelle les ondes Martineau.
Les ondes Martineau. Ouais.
Martineau, pardon. Et qui ressemble un peu d'ailleurs dans le son.
C'est un peu différent.
Un petit peu différent, mais effectivement, c'est par l'action comme ça, avec un fil, et ça vibre aussi, c'est étonnant.
Il est vibrant aussi,
c'est
Guillaume Meurice.
Aïe!
Ne faites pas ça chez vous.
Ceci est une alerte enlèvement. À l'heure où vous entendez ce message, nous sommes toujours sans nouvelles de la dignité d'un homme dénommé Manuel Valls. C'est un homme de type méditerranéen, pas tout à fait white ni blanco, plutôt rougeau si vous le contrariez. La dignité de cet homme a été aperçue pour la dernière fois, vêtu d'une veste retournée et d'un pantalon sur les chevilles. Si vous la voyez, contactez-nous au plus vite. Et surtout, n'agissez pas seul. Voilà, écoutez, depuis ce matin, je vous cache pas que je suis très inquiet. Impossible de mettre la main sur la dignité de Manu. La difficulté, c'est une très petite dignité, en fait, dignité de petite taille, pile entre celle de Jean-Marc Morandini dans un casting et de Chewbacca dans une soirée tiponche à 2 euros. On est vraiment sur de l'infiniment petit. Mais bon, écoutez, je vais faire ce que je peux. Je suis même allé ce matin dans la ville de Manuel Valls à Évry pour mener mon enquête. J'ai demandé aux citoyens, par exemple, est-ce que ce monsieur l'a vu, cette fameuse dignité ?
Oui, oui.
Vous avez vu la dignité de Manuel Valls récemment ?
Ah, dignité, non.
Ah, non. Vous avez vu Manuel Valls en lui-même, mais pas sa dignité.
Voilà, c'est ça.
Il n'était pas avec, quoi.
Voilà, c'est ça.
Voilà, l'enquête s'annonce longue et fastidieuse. C'est vrai que par le passé, Manuel Valls avait tendance à laisser traîner sa dignité un petit peu partout, hein, notamment quand il voulait un poste. Il est tellement lèche-cul, Manu, qu'il a chopé des hémorroïdes à la langue, hein, quand même, je vous le rappelle. Mais bon, poursuivons les recherches, j'ai peut-être trouvé une piste.
Évry, c'était quelqu'un de très très bien. On ne lui voit pas pourquoi il changerait maintenant.
Vous le trouvez digne ?
Bah, oui. Dans le monde politique, oui.
Ah, c'est vrai ?
Ah, oui.
Bon, ça veut dire que la dignité de Manuel Valls a existé.
Elle a existé, il n'y a pas de raison qu'elle continue pas maintenant.
Vous la trouvez quoi ?
Vous la trouvez, il faut qu'il l'approuve lui-même.
Ah non, mais on ne va pas pouvoir compter sur Manu. Non, il a déjà paumé son honneur en soutenant pas Benoît Hamon, sa crédibilité avec le 49-3, il a paumé son charisme en transpirant comme un facochère dès qu'il fait plus de 12 degrés. Il perd tout, on ne va pas lui faire confiance. Non, je vais continuer tout seul. Est-ce qu'il lui reste encore de la dignité cachée, peut-être quelque part en lui ?
Oui.
Oui, il a encore de la dignité ?
Oui.
Ah, elle est où alors ?
J'en sais rien.
Elle est à Évry, vous pensez ?
Oui, oui.
Ah ben où alors ?
J'en sais rien.
Je ne sais pas.
Je veux qu'il reste socialiste.
Non, il ne faudra pas qu'il reste socialiste. Comme si Valls avait déjà été socialiste. Le mec qui pense que Jaurès, c'est l'inventeur de la station de métro sur la ligne 2. C'est pas sérieux. On continue. Est-ce que Manuel Valls n'a pas perdu peut-être sa dignité quand il a trahi, quoi ?
Trahi, c'est beaucoup de choses. Il les a lâchés.
Il n'a pas trahi ?
Non, je pense pas. Il les a lâchés légèrement, quoi.
Ah, il n'a pas trahi, il les a lâchés légèrement.
Bah, c'est ce que je pense.
Lâcher légèrement, c'est vrai. On dirait l'avocat du capitaine du Costa Concordia. Mon client n'a pas quitté le navire, il les a lâchés légèrement pour aller acheter des chips. Non, ça va pas le faire. Hein. Je crois qu'on retrouvera Xavier Dupont de Ligonnès avant la dignité de Manuel Valls. Les habitants sont-ils comme moi déçus et résignés ?
Ni déçus ni résignés, puisque nous, ça fait très longtemps qu'on a déjà pris parti pour le seul roi qui remettra les choses en ordre, qui est Christ.
Ah, intéressant.
Voilà.
Ah oui, mais alors là, il s'est pas du tout présenté aux élections, hein, celui-là.
Non, parce qu'il est déjà élu et lui, avant de le déloger, il va falloir vraiment que les gens soient très très forts. C'est pas possible.
Ah, je serai le Christ, je ferai pas trop le malin quand même, hein, parce que la dernière fois, ça s'est pas super bien terminé, son histoire. La séance d'acupuncture au soleil, c'était pas top. En tout cas, Manu Christ continue sa montée du Golgotha sous le regard des habitants d'Évry médusés. Mais comme m'a bien dit cette dame, hein, pas de déception.
Nous, on n'est pas déçus, puisqu'on a une foi solide dans un futur gouvernement céleste qui est déjà établi et qui va remettre les choses en ordre. Mais ça fait de la peine.
Quand est-ce qu'il sera nommé, alors, ce gouvernement céleste ?
Alors, en fait, ce gouvernement, il existe déjà. Il est déjà intronisé en tant que roi depuis 1914. Ça, ce sont des dates bibliques.
Ah, 1914, d'accord.
Depuis 1914, voilà.
Et est-ce que Manuel Valls fait partie de ce gouvernement céleste ?
Je ne sais pas s'il a une espérance religieuse, mais en tout cas, il est bien caché.
Oui, bien caché, un petit peu comme sa dignité. Finalement, impossible de remettre la main dessus ce matin. Mais je ne baisse pas les bras et je vais me consacrer à un défi encore plus grand, rechercher l'humilité d'Emmanuel Macron.
Guillaume Meurice, merci. Vous écoutez France Inter et Philippe Jaroussky est là, donc ça tombe très bien. On va profiter de votre présence, Philippe, pour aborder ce deuxième sujet. Ils font le sale boulot du web, on les appelle les éboueurs d'Internet. Il s'agit des modérateurs chargés de virer les commentaires haineux ou les vidéos dégueulasses. Ils nous protègent, bien sûr, mais qui pour les protéger, eux, alors que certains subissent des traumatismes comparables aux soldats qui reviennent de zones de conflit, semble-t-il. Eh bien déjà, la justice, c'est un premier pas. Hein.
je vais te détruire idéologiquement, ton quotidien sera un enfer de désolation, tu moisiras toute seule de l'intérieur, t'es comme un fruit pourri, tu vas tomber de toi-même, tu es un débris de merde dans l'immensité du cosmos, ta lâcheté a laissé sur moi une trace indélébile à vie, je t'en voudrais à vie, tu m'as détruit, encore gros tas de merde, je vais te faire avaler ton arrogance de petite pute du septième, saloperie de sociopathe de merde, la réalité va t'exploser à la gueule, je viens de rêver que je prenais ta tête pour l'exploser contre un mur en pierre. Encore, je rêve de t'écorcher vive, morceau par morceau, super lentement, avec un couteau suisse. Aujourd'hui, la joie sur mon visage en pensant à toi. Tu es morte, je te pleure enfin la paix, je peux t'aimer tranquillement et quand même chier sur ta tombe.
Julie Moulier dans Victoria, le film avec Virginie Efira. C'est vrai que quand c'est dit, quand c'est lu, quand c'est interprété, ça passe.
Oui, bien sûr. Mais on se fait des images quand même.
Oui, c'est sûr. Philippe Jaroussky, il y a un article ce matin dans L'Humanité, mais aussi dans Marianne cette semaine, qui s'appelle Les éboueurs du web. Des gens qui sont sous-payés, peu ou pas formés. Ce sont des modérateurs qui ingurgitent pour nous les pires horreurs du web. On vit dans une société où les ordures sont aussi virtuelles et il y a des gens pour les nettoyer. C'est un aspect que vous découvrez comme nous, parce que avant d'avoir lu ces articles, j'arrivais pas à matérialiser qu'il y avait des gens qui travaillaient à ça toute la journée, qui se lèvent le matin à 9h, qui doivent voir une vidéo si elle est zoophile ou pas pour la retirer, etc. Qu'est-ce que ça dit de la société dans laquelle on vit et comment vous recevez ça ?
C'est vrai qu'il y a un peu de tout et que je pense qu'heureusement que ces gens existent déjà, effectivement. Je ne sais pas qui les engage, je ne sais pas trop.
Des sociétés qui d'ailleurs délocalisent aussi, parce qu'il y en a une qui va être délocalisée à Madagascar. Donc c'est,
d'accord, c'est fou, mais ouais. Moi ça m'arrive des fois, déjà sur vos vidéos à vous, des fois j'hallucine un petit peu par la violence. Mais par exemple la violence des commentaires parfois sur des choses qui sont quand même, c'est de l'humour.
Justement, vous avez été confronté à ça, vous avez chanté dans un delphinarium, c'est-à-dire, c'est ça hein dans,
Oui.
Alors, vous avez chanté avec des dauphins pour faire court.
Moi, par exemple, c'est vrai que j'avais pas quantifié la chose, j'avais chanté avec un beluga qui chantait très bien, hein, qui produisait beaucoup de sons. Et j'ai eu effectivement beaucoup d'associations qui me sont tombées dessus sur ma page Facebook. Et j'avoue que j'ai jamais enlevé un seul commentaire à partir du moment où c'était respectueux et que ça affichait une opinion. Je pense que je ne le referai plus. Mm-hmm. Parce que quand finalement on fait quelque chose qui est en dehors de ce qu'on a l'habitude de faire, on peut se faire attraper effectivement par cela. Mais par contre, voilà, à partir du moment où c'est pas un commentaire haineux ou qui atteint qui me menace ou des choses comme ça, j'ai laissé tous ces commentaires parce que j'estimais que c'était une forme d'expression.
Mais là, pour avoir chanté avec un beluga, vous vous êtes pris des sauts et vous êtes laissé dépasser par
accompagné par un thérémine, c'est génial.
Non, mais vous avez été dépassé par le
oui, en plus c'était un mensonge parce que le beluga ne réagissait pas à mes sons mais il réagissait en fonction des gestes que je faisais. Donc ça veut dire que si je le caressais d'une certaine façon, il produisait un ou si je le tapotais, il faisait ou des choses comme ça. Mais par contre, c'était une expérience.
Il faut lui foutre la paix à ce beluga. Il n'a rien demandé.
C'est vrai qu'il n'avait rien demandé, je suis d'accord avec vous.
On sait que c'est vous qui avez fait des commentaires sur la page de Philippe Jaroussky.
C'était pas son projet.
C'est vrai, il est 17h, bientôt 47 sur France Inter, l'heure de l'édito de Pablo Mira. Ah. Alors, Pablo, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, je n'ai qu'une chose à dire. Ouais. Quelle chance vous avez. Pablo, aujourd'hui,
Pas sympa pour commencer.
Oui, mais bon, écoutez, vous souhaitiez déclarer tout votre amour à quelqu'un en particulier, je crois, non ?
Oui, Charline, je vais parler de celui qui a réussi un hold-up sur la politique encore plus fort que celui d'Europe 1 sur la grille de France Inter. Emmanuel Macron, que d'ailleurs j'ai toujours soutenu depuis ce moment où j'ai appris qu'il avait gagné dimanche dernier. Donc déjà, commençons par saluer sa belle victoire, car c'est lui et personne d'autre que les Français ont désigné pour se faire harceler jour et nuit par Jean-Vincent Placé. Ce qui me fait plaisir, vous savez, chez cet homme, chez Emmanuel Macron, c'est qu'il a su mobiliser derrière lui cette France que j'aime tant, la France black, blanc, Uber. Et puis, disons-le franchement, ce qu'Emmanuel Macron a réussi à faire, c'est incroyable. Rien que dimanche soir, au Louvre, il a réalisé ce que Thomas VDB a toujours rêvé de faire, marcher droit pendant au moins 3 minutes. C'est aussi lors de cette marche solitaire qu'il a montré qu'il n'était pas le clone de François Hollande, Emmanuel Macron, puisque François Hollande, lui, n'aurait jamais pu parcourir les 500 mètres de l'esplanade du Louvre sans faire un détour pour acheter un quick and toast au passage. Ce qui me plaît chez lui aussi, c'est aussi qu'il incarne le rêve à la française un peu, Emmanuel Macron. Le message qu'il envoie, c'est que n'importe qui, s'il le souhaite, peut devenir président de la République. N'importe qui, s'il le désire suffisamment, peut humilier Manuel Valls. Macron, c'est aussi, et on peut en être fier, le Barack Obama français, le Barack Obama à la française. Il est cool, il plaît aux jeunes et tout ce qu'il va réaliser pendant son mandat sera détruit plus tard par une personne blonde xénophobe. Voir un président comme ça à la tête de notre pays, c'est une bonne nouvelle aussi au passage, parce que rappelez-vous, la dernière fois qu'on a ressenti un tel espoir en politique, c'était quand ? Eh bien, c'était quand Christine Boutin avait fait un malaise vagal lors de la manif pour tous. On s'en souvient assez peu. Mais attention, parce qu'il faut pas croire tout de même que ça va être facile pour Emmanuel Macron durant son quinquennat. Il a parfaitement conscience des défis qui l'attendent. Nommer un premier ministre compétent, faire chuter à 2-3% le taux de blagues sur l'âge de Brigitte, sans perdre de vue son objectif numéro un, obtenir à l'Assemblée ce qu'il n'a jamais, ce qu'il n'avait pas au moment de séduire sa femme, la majorité, évidemment. Alors après, certes, il est jeune, Emmanuel Macron, mais il est pas encore entré en fonction. Alors je dis juste, il faut lui laisser le temps de faire ses preuves. Moi, je crois qu'en 5 ans, il sera parfaitement capable de nous prouver qu'il peut nous décevoir. Et il y arrivera, vous savez, car c'est un homme, Emmanuel Macron, pugnace. Hein, il aime les défis. C'est un
allô
homme.
Allô, Pablo.
Oui, bonjour, c'est qui?
Oui, c'est Manuel Valls.
Mais vous voulez quoi, monsieur Valls? Pourquoi vous appelez?
Oui, pardon de vous déranger en pleine chronique.
Bah, mais on est à l'antenne,
oui. Savoir, notre nouveau président, il aime les défis de quelle couleur, précisément? Ce serait pour un cadeau.
Mais j'en sais rien, moi. C'est quoi cette question? Bleu, monsieur Valls.
Super, merci beaucoup, Pablo. Anne, tu peux me commander une dizaine de défis bleus sur Le Bon Coin, s'il te plaît, et tu l'envoies au QG de la République en marche.
On est à l'antenne.
Merci beaucoup, Pablo.
Oui, mais on est à l'antenne. Bon, allez, je sens que ça va pas être de tout repos pour le nouveau président. Mais vous savez quoi, moi j'y crois. J'y crois quand même. D'ailleurs, rares sont les politiques qui nous donnent envie de croire en eux. Mais Emmanuel Macron, il est de cela. Pour moi, la volonté de cet homme possède la même force que les films X japonais stockés dans l'ordinateur de Guillaume. Elle est sans limite, Charline. Allez, à toi.
Pablo Mira, merci. Je rappelle qu'on peut vous revoir sur France Inter. .fr en vidéo et sur notre page Facebook, bien
oui,
sûr.
Oui, Medef, évidemment aussi.
Oui, Medef.fr, tout ça.
Où il sert des cafés tous les jours.
Ouais, bon, après, on fait ce qu'on peut.
Mais quand vous faites un effort vestimentaire et qu'on est à la radio, c'est bien de le préciser.
Je suis en pyjama, là, Charline.
Oui, puis vous pouvez voir Jouvaka aussi, avec sa casquette.
Je fais aucun effort vestimentaire.
Bien sûr, non.
Pas voilà. Comme certains, pour voilà. Mauvais goût.
Vous, chez vous, vous êtes bien habillés. Bon, de toute façon, on s'en fiche, on ne vous voit pas. Mais on est près de vous, et entre vos oreilles, ce troisième sujet, avec Philippe Jarouski, qui nous accompagne. Un mythe s'écroule. La sonorité d'un violon moderne n'a rien à envier à la sonorité d'un Stradivarius, apprend-on. Une étude menée sur plusieurs groupes d'auditeurs montre qu'ils préfèrent le violon moderne. Mais c'est qui ces auditeurs?
Alors Driss, vous ne dites pas que ça vous fait rien, ça?
Non, rien du tout. Ça fait rien du tout, ça. La musique qui se danse pas, c'est pas de la musique pour moi.
Bon, alors, on va passer à autre chose.
Si, je connais, oui. C'est une pub. Pour du café, non? Je connais celle-là. Si, je la connais, tout le monde la connaît. Mais si. Bonjour, vous êtes bien aux Assédiques de Paris? Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Le temps d'attente est d'environ 2 ans.
Omar Sy et François Cluzet dans Intouchables, bien sûr. Alors cette histoire, le mythe des violons Stradivarius s'écroule détrôné par les instruments modernes, c'est en page science de nos hebdomadaires ou de nos journaux. C'est une nouvelle stupéfiante dans le milieu de la musique classique où les novices que nous sommes découvrons l'eau chaude ou c'est tout à fait farfelu?
C'est ni farfelu. Enfin, moi, je suis violoniste, voilà. Enfin, un sujet que je maîtrise un petit peu. j'ai eu la chance de faire quelques sons sur un Stradivarius que m'avait prêté un ami à moi. Mais
ça fait des frissons. Qu'est-ce que ça fait quand on joue d'un Stradivarius?
Déjà, c'est hyper émouvant de voir un instrument qui est un bout de bois qui a 400 ans et qui est magnifique, qui est splendide, et qui résonne.
400 ans.
Oui. Et c'est en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un violon, ça se fait. C'est-à-dire qu'un violon moderne peut être excellent, mais il faut le jouer. Et en fait, c'est la propagation des ondes dans le bois qui va faire qu'au fur et à mesure, le violon va sonner de mieux en mieux. Ce qui fait d'ailleurs que le Stradivarius sonne très très bien, parce qu'il a, 400 ans de, voilà, de gens qui ont joué dessus. Par contre, là où effectivement, peut-être les goûts ont évolué. Il faut savoir que les Stradivarius ont été faits pour jouer d'une certaine manière. Et on a évolué dans la façon de jouer du violon. Et on veut par exemple des instruments plus puissants maintenant, parce qu'on joue dans des très grandes salles, par exemple. Donc, effectivement, peut-être aussi, il y a des violons modernes qui correspondent mieux au goût du jour, peut-être. Et puis, ça coûte moins cher, il faut se le dire, parce qu'il y a des Stradivarius qui atteignent plusieurs millions d'euros.
Oui, oui. Donc, il n'y a pas que le type de fleurs qu'il y avait dans le champ où on a coupé l'arbre pour faire le bois du violon du
Alors,
Stradivarius.
Alors, si, parce qu'on savait que Stradivarius possédait des bois qui séchaient depuis parfois même plus de 100 ans. Donc c'est ça aussi qui faisait la qualité de l'instrument. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut savoir que peut-être que c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de musiciens, parce que beaucoup de musiciens très doués ne peuvent s'offrir ces instruments. Et la plupart, beaucoup de Stradivarius appartiennent à des banques, à des fondations qui les prêtent, mais qui ont aussi le droit de les reprendre aux musiciens. Donc ça peut être une vraie tragédie.
Ça peut libérer un peu, décomplexer, parce qu'il y a, peut-être même le violon anonyme quand vous faites une audition. S'il y a un jury et que le jury repère, c'est possible de repérer à l'œil que c'est un Stradivarius ou un violon d'excellente qualité.
À l'œil, oui, il y en a qui peuvent être... Voilà, il y a des copies aussi, beaucoup. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une forme d'injustice entre deux musiciens, hein, qui possèdent un magnifique instrument et un autre qui n'a pas les moyens encore de, voilà, d'avoir un instrument aussi cher.
Vous pourriez reconnaître, parce qu'ici apparemment c'est fait à l'aveugle, ces deux sons, et les gens ont dit, mais en fait on préfère le violon moderne. Vous, si on vous fait écouter ces deux mêmes sons, vous allez tout de suite dire, ah ben ce son, c'est le Stradivarius qui me plaît
peut-être plus. Je serais surpris, je pense qu'il y a aussi des luthiers vivants qui sont excellents et qui se sont inspirés du travail de Stradivarius d'ailleurs, parce que la forme, c'est ça qui est incroyable, n'a pas bougé au cours de ces siècles-là. C'est-à-dire que cette forme parfaite du violon, c'est Stradivarius qui l'a trouvé et on n'a jamais trouvé mieux.
C'est l'instrument ultime pour un musicien classique, c'est le violon.
Pour moi, oui, c'est le roi des instruments.
La flûte à bec, c'est non, parce que moi j'ai appris
l'harmonica, rien du tout.
Non, oui, non.
Ouais, bon,
non. Tant pis. C'est pas dans le pôle 10, c'est pas dans le top 10. Quoi.
Alex, vous avez une proposition à faire, parce que Philippe Jaroussky est chanteur lyrique, violoniste et maintenant comédien.
Il connaît l'émission, donc il sait, hein, qu'il va tomber sur l'histoire du sketch en fin d'émission.
Oui, bah, je ne sais pas
dans
quoi,
les mains. Mais... Il est venu quand même, donc c'est bien fait. Alors attention, parce qu'aujourd'hui, une histoire amusante. Guillaume Meurice n'a pas
non,
le sketch,
je
pourtant
pas le...
je lui avais imprimé. Mais hop, on lui donne une version, parce qu'on est évidemment équipé. En Corse, il y a 4 investitures en marche à distribuer, sauf qu'il y a 18 candidats. Alors comment on fait pour choisir 4 Corses parmi 18? C'est pas évident. On se rend tout de suite au QG d'En Marche à Ajaccio.
Hey, mesdames, messieurs, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour désigner les 4 élus qui pourront briguer une investiture pour le mouvement En Marche.
Pour le moment, on est 18.
Ah, merci Antoine, mais c'est moi qui dirige la réunion. Tu parleras quand je te le dirai.
Eh ouais Antoine, le silence est d'or, mais ne l'oublie jamais.
Ça vaut pour toi aussi Pierre-Henri. Bon, alors, on a monsieur Albertini.
Ah yo, Albertini, ça fait 25 ans qu'il a pas quitté son hamac.
Et alors?
Et aujourd'hui, il va nous faire croire qu'il est en marche.
Il y a aussi Paoli.
Mas, ce Montasegue, il a créé une start-up de livraison de figatelli par drone. Depuis, ils se sont plus pissés. Mais qu'est-ce que c'est?
C'est ici la réunion pour décider des instituts d'En Marche.
Oui, vous êtes monsieur...
Je suis Manuel Valls, j'arrive de Boniface.
Non, désolé monsieur, on est déjà complet. En plus, vous ne remplissez pas les conditions.
Mais on va nous lâcher celui-là.
Écoutez-moi.
Tu aimes la Méditerranée?
Mais hein? J'adore la mer.
Eh ben, si tu veux pas finir tes jours dedans, rentre chez toi.
Sans vouloir m'imposer, je pense avoir le meilleur profil pour une investiture.
Moi aussi, je pense avoir le meilleur profil. Tu crois quoi, Pierre-Henri, les saucissons, ils ne poussent pas sur les patins?
Oh, calme-toi. D'ailleurs, ça avance les travaux de la paillote de ta fille sur la plage à côté de chez moi.
Pourquoi tu dis ça? C'est des menaces que j'entends.
Je menace jamais, moi. Je dis juste qu'ici en Corse, tu le sais bien, le sol est friable et tout peut s'écrouler.
Messieurs, restons courtois et jurez de vous entendre.
Et je le jure.
Moi aussi, je le jure sur la tête de Tino Rossi.
Ah, eh ben voilà, on n'est plus que 17.
On embrasse nos amis corses. Hein,
mais parce, oui, bien après, sûr.
Oui, on sait, voilà, tout, tout.
Évidemment, on nous écoute.
Voilà, il faut quand même rappeler que c'est du second degré, qu'on ne fait pas bien l'accent, tout ça.
On a des voitures avec des pneus, donc on n'a pas forcément...
C'est par précaution, donc, c'est par précaution. Philippe Jarouski, merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci à vous.
On était ravis. Je rappelle que vous serez en concert à la scène musicale sur l'île Séguin de Boulogne le 23 mai, mardi, à 20h30. Philippe Jarouski and Friends, que s'ouvrira en septembre l'Académie Philippe Jarouski, bien sûr. Et puis, qu'il y a ce superbe album, La Storia di Orfeo, qui est disponible depuis début mars, avec Emoque Barat, Monteverdi, Sartorio et Rossi. Et pour nous quitter, Philippe Jarouski, un petit projet, vous êtes d'accord, comme mot de la fin?
Ok, ok.
C'est notre projet.